Bonjour à tous. Ce matin, je voulais partager avec vous un texte qui, même si je l'ai lu, je ne sais pas, probablement des plusieurs dizaines de fois, me touche toujours. Donc c'est le passage où Jésus se retrouve dans le jardin de Gethsémané. Et après avoir vécu la Pâque avec ses disciples, après leur avoir parlé de sa mort qui allait venir, après avoir annoncé à ses disciples qu'ils allaient le renier et l'abandonner, donc après ces moments-là, Jésus va partir avec ses disciples pour aller dans un lieu où ils avaient l'habitude. Ils avaient l'habitude d'aller. Le texte nous dit que c'était un lieu où ils se retrouvaient. Ils se retrouvaient régulièrement. Donc sur le Mont des Oliviers, ce jardin donc qui s'appelle Gethsémané. Et dans ce lieu, à ce moment-là, Jésus va manifester toute son humanité. Il va exprimer, on a parlé tout à l'heure des sentiments, il va exprimer son angoisse et sa peine. Il va nous montrer aussi une facette de sa relation avec son Père, une facette qu'on retrouve, je pense, nulle part ailleurs. Ça va être aussi un moment d'échec pour ses disciples, mais aussi un moment où Jésus va pouvoir les exhorter. Donc, On va lire ce passage. C'est un passage qui est repris dans les trois évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc. Je vais lire la version qui est dans Marc. Donc ça se trouve au chapitre 14, à partir du verset 32. Je vais lire dans la version du semeur. Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas et se laissa tomber à terre. Et prie à Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. « Abba Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller une heure? Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la troisième fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez ? C'en est fait. L'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y. « Car celui qui me trahit est là. » Ce passage décrit Jésus comme étant envahi par la crainte, par l'angoisse, par la tristesse. On a déjà vu Jésus dans d'autres passages, on l'a vu ému, on l'a vu pleurer, on l'a vu joyeux, on l'a vu triste, on l'a vu en colère, mais dans tous ces passages, on a une image malgré tout d'un Jésus en paix et maître de lui-même, qui conduit ceux qui l'entourent. Mais ici, les émotions le submergent, et il vit un moment de profonde dépression. Et Jésus dit lui-même qu'il est triste. Triste à en mourir. Pourtant, depuis le début de son ministère, Jésus a parlé de sa mort. Il en a parlé à de multiples reprises. Il l'a annoncé, il a dit ce qu'elle signifiait. On sait qu'il la connaît, il l'a vu venir de loin. Il sait aussi quelle portée elle va avoir pour le salut des hommes. Mais à Gethsémané, la réalité de cette mort, la réalité de la souffrance qui est devant lui, cette réalité le rencontre, le rattrape d'une façon particulière. Pour ceux qui ont déjà fait du parachutisme ou qui ont eu à sauter d'endroits très hauts, ou même pour ceux qui se sont approchés d'une falaise élevée, quand on s'approche d'un endroit comme celui-là, on a la plupart du temps un réflexe qui est de se reculer. Même quand on a décidé qu'il fallait sauter, qu'on s'est préparé mentalement, qu'on sait qu'on a les instruments nécessaires pour pouvoir faire ce saut en sécurité, et bien malgré tout, le corps a ce mouvement de recul. Parce que nous rejetons la mort et la souffrance. On est construit comme ça. Et à ce moment-là, Jésus est pleinement un être humain qui lui aussi rejette la mort et la souffrance qui sont devant lui. Et cette mort, ce passage nous dit que Jésus ne la veut pas. Et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est la dimension spirituelle de ce qu'attend Jésus qui le met dans un tel état d'angoisse et de souffrance. La séparation d'avec le Père, le poids de la culpabilité de nos fautes que Jésus va porter, que c'est cela qui le remplit d'angoisse. Et bien sûr, je veux pas minimiser cette dimension-là de ce que Jésus va vivre à la croix. Malgré tout, je pense que la mort et la souffrance qui sont devant lui, les coups, l'humiliation, le rejet, la haine qu'il va subir, tout cela, Jésus le rejette, aussi. Et Jésus prie en disant: Père, éloigne de moi cette coupe. Pour moi, c'est la première prière non exaucée de Jésus. La seule fois où il va demander quelque chose à son Père et que son Père ne va pas lui donner. Et en réfléchissant un peu à ça, je me suis rendu compte que ça éclairait d'une façon peut-être un peu différente de celle que j'avais dans ma tête, dans ma façon de voir Jésus. Ici, Jésus n'est pas un héros. Un héros qui part vers la mort, qui part vers la mort volontairement et avec insouciance. Ici, Jésus, c'est une victime. Une victime expiatoire, mais une victime. Et c'est le Père qui sacrifie son Fils. Dans ce texte, on voit que c'est le Père qui donne son Fils pour le monde. Et c'est une dimension que j'ai rarement perçue et qui, je pense, donne une valeur particulière au sacrifice. Et aussi, cette humanité de Jésus nous éclaire aussi sur notre propre humanité. Jésus, là, n'accepte pas la mort et la souffrance comme allant de soi, comme quelque chose à endurer en silence. Jésus rejette cette mort, il n'en veut pas, et il a prié pour y échapper. Et ça veut dire que nous aussi, pour nous aussi, la souffrance et la mort, c'est pas quelque chose que nous sommes appelés à à accepter comme allant de soi et sans nous tourner vers Dieu pour demander à en être délivré. Ensuite, évidemment, Jésus fait un choix, et c'est le choix de l'obéissance et de la soumission à la volonté de son Père. Et ce texte met en avant combien ce choix est total. Trois fois, il va faire. Merci. Trois fois, il va faire la même prière. Dans le texte de Marc, c'est pas forcément mis en avant, mais on voit bien ça dans le parallèle dans Matthieu et dans Luc. Trois fois, il va faire cette même prière. Trois fois, il va réaffirmer sa volonté d'obéir à son Père, d'obéir à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est vrai que nous sommes habitués à cette dimension, évidemment, de l'obéissance, et elle est fondamentale. Jésus choisit de donner sa vie, d'accomplir la volonté de son Père. Il renonce à sa vie pour porter sa croix, comme il a encouragé ses disciples à le faire. Mais dans ce texte, ce qui est particulier, c'est que ce choix, il le fait dans son humanité. Il le fait comme un homme qui mesure la souffrance et la mort, qui la vit dans sa chair, dans son corps, dans son âme, et qui malgré tout choisit de marcher sur le chemin que Dieu a placé devant lui. Et c'est en ça aussi qu'il est notre modèle. Il a choisi d'obéir en étant comme nous, en étant un homme qui souffre. Ce moment est un moment évidemment de solitude pour lui. Et pourtant, il choisit de prendre des amis avec lui. Il demande à ses disciples de prier. Et puis il prend avec lui trois de ceux qui sont ses amis. Trois personnes qui lui sont proches. Alors dans ce texte, on voit que ses amis sont pas très vont pas lui être très utiles. Et malgré tout, il les prend avec lui et ils sont là à quelques mètres de lui. Il leur demande de rester là pendant que lui va fait quelques pas de plus pour mener son combat. Un combat qu'il est seul à pouvoir accomplir, mais malgré tout, il a besoin de la présence de ses amis près de lui. Parce que là encore, dans son humanité, il a tissé des liens. Il a tissé des liens avec des personnes qui sont devenues proches. Et au moment de son combat, un combat qu'on voit difficile, eh bien, il a besoin d'être avec eux. Et là aussi, ça nous interroge. Ça nous interroge sur les liens que nous avons tissés. Est-ce que nous avons des personnes autour de nous à qui nous pouvons demander d'être avec nous dans le combat, à qui nous pouvons demander d'être près de nous quand nous avons à lutter et à faire des choix difficiles. Puis est-ce que nous-mêmes, nous pouvons être des soutiens pour ceux qui nous entourent quand ils en ont besoin et qu'ils ont besoin que quelqu'un soit à leur côté pour les soutenir, pas pour prendre une responsabilité qui n'est pas la leur, mais pour être à côté, pour être ceux qui soutiennent. Et ce passage nous montre les disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui vont s'endormir. Là aussi, leur faiblesse est totale, trois fois. Trois fois, ils vont s'endormir. Donc on le sait, hein, dans l'Écriture, le chiffre 3, ça représente la totalité, la complétude, c'est la Trinité, c'est un chiffre qui montre la, voilà, quelque chose est complet et fini. Et là, trois fois, les disciples vont s'endormir, de la même façon que trois fois, Pierre va renier son maître. Leur faiblesse est complète, leur échec aussi. Le texte nous dit qu'ils avaient tellement sommeil qu'ils ne pouvaient pas garder les yeux ouverts. Dans le texte de Luc, il est dit qu'ils étaient accablés de tristesse. Et cette fatigue et cette tristesse vont les empêcher de soutenir leur ami. Et Jésus va les exhorter en leur disant « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. » Pour ne pas céder à la tentation. Et je me suis demandé, mais de quelle tentation est-ce que Jésus parle souvent en pensant à ce verset? J'ai une image un peu générique de la tentation, toutes les tentations. Je pense que ce passage est que la tentation dont il est question dans ce passage est vraiment vraiment dépendant du contexte dans lequel Jésus le dit. Il leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, dans cette traduction, c'est la nature humaine est faible. Et c'est vrai que donc les disciples veulent veiller. Ils veulent rester éveillés à côté de leur ami et ils n'y arrivent pas. Et oui, le sommeil est naturel. On a tous vécu des moments où on était très fatigué, où effectivement on n'arrivait pas à garder les yeux ouverts et quoi qu'on fasse, on a la tête qui tombe et on s'endort. Ça nous arrive et notre corps est ainsi fait. Mais dans cette expression, la chair est faible. Ce mot-là fait d'abord référence à ce qu'est l'homme quand il est sans Dieu. L'homme par lui-même est bien faible. Et la tentation dont Jésus parle ici, on voit bien en quoi elle consiste en disant ce qui se passe avant et puis ce qui se passe après ce passage-là. Juste après, les disciples vont abandonner. Ils vont abandonner leur maître. Ils vont l'abandonner une première fois en essayant d'utiliser la violence. Vous savez ce qui se passe au moment où les serviteurs du grand prêtre arrivent dans le jardin. Il y avait deux épées qui étaient présentes et Pierre sort une épée et coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre et Jésus doit les arrêter parce que son message est pas là. Son message c'est pas un message de révolution violente. Donc un premier abandon de l'enseignement du Christ où on essaye de se sortir de la situation dans laquelle on est par la violence et ensuite évidemment l'abandon pur et simple où les disciples vont s'enfuir, l'abandon de Pierre répété. Et au moment où Jésus les encourage à veiller et à prier, donc le texte nous dit qu'ils sont accablés de tristesse. Et Jésus, c'est vrai, les a prévenus qu'il allait souffrir. Les a prévenus qu'il allait être rejeté, humilié. Les a prévenus qu'eux-mêmes allaient l'abandonner. Les disciples savent que la fin est proche. Ils savent que le danger est là. Ils ont vu l'opposition tout autour d'eux. Ils ont vu les tractations, les jeux de pouvoir et d'influence qui se nouaient autour de, autour de Jésus. Et ils voient Jésus qui ne fuit pas. Jésus qui ne fait rien pour se sortir de cette situation. Et le découragement les gagne. La tristesse, le fait qu'il n'y a pas de, ne voit pas d'issue. Et c'est vrai que sans Dieu, les disciples vont être sans force. Ils vont abandonner la lutte, abandonner leur maître, abandonner son enseignement, abandonner l'espoir. Et Jésus les encourage, il leur dit veillez et priez pour ne pas abandonner, pour ne pas céder au découragement, pour ne pas céder à la peur. Veillez et priez pour voir la victoire là où le monde ne voit que faiblesse et défaite. Veillez et priez pour voir comme Dieu voit. Veillez et priez pour rester attaché à votre Dieu au moment de l'épreuve. Dans ce passage, Jésus a été pleinement homme. Dans d'autres passages, c'est sa divinité qui est mise en avant. Mais ce passage-là met en avant son humanité. Jésus a aimé la vie, il a aimé ses amis, il a tissé des liens, il a rejeté la mort et la souffrance, et pourtant il les a subis par obéissance. Et dans son humanité, il a choisi d'obéir, de subir à notre place la mort et le rejet. Et c'est aussi dans cette humanité qu'il nous exhorte à prier, il nous exhorte à veiller pour que nous aussi nous puissions tenir ferme, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Et donc Paul a proposé qu'on passe un moment dans la prière après ce partage, et ce serait, je pense, une occasion de faire ensemble ce que Jésus nous exhorte à vivre. Et je vais conclure ce partage en vous lisant quelques versets dans Ésaïe 53. Je vous encourage à lire d'ailleurs tout le chapitre en parallèle avec ce passage de Gethsémané, mais là je vais lire seulement quelques versets. Je vais lire donc à partir du verset 4. En vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, et c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. Et Dieu a fait retomber sur lui les fautes de nous tous.